Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Dégradation en série au cimetière du 5e kilomètre. La ville de Nouméa condamne fermement ces actes de vandalisme devenus quotidiens. Même vidée d'une grande partie de son contenu, la réforme de la TGC votée hier doit permettre le versement des 9 milliards de l'État. Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement, était notre invitée ce matin. En métropole, le Premier ministre et son gouvernement échappent à la motion de censure. Les socialistes se désolidarisent à cette occasion des autres partis du nouveau Front populaire. Après l'accord avec le Hamas, Israël se prépare à retrouver 33 otages. Le pays s'inquiète de leur état de santé physique et mentale après plus de 400 jours de détention. Et puis en sport, trois Français vont tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Bonzi, Humbert et Fils seront aujourd'hui sur les courts de Melbourne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La ville de Nouméa condamne les dégradations au cimetière du 5e kilomètre. Alors que le funérarium et les cimetières avaient été épargnés lors des violences de mai 2024, ils sont depuis peu pris pour cible par des délinquants. Intrusion, dégradation et même un incendie. Alain Bouffnèche est le directeur de la vie citoyenne à la mairie de Nouméa.
Depuis une semaine, le cimetière est la cible de petites dégradations. Ça passe par des trous dans les clôtures pour pouvoir rejoindre certainement le village des Gaillacs et puis les commerces qui sont à proximité du rond-point Bellevie. On a des tags qui apparaissent, on a des tombes, les vases sont renversés, jetés au sol, etc. Et puis, le jeudi dernier, une agent de la ville qui a quitté son poste à 15h45, une personne est venue et a essayé de lui voler son sac à main. L'agent a eu les doigts foulés et est un peu choqué par la situation.
Il y a eu hier l'incendie d'une benne aussi en plein jour.
L'entreprise qui effectue la coupe de l'herbe et le nettoyage des sols dépose sa benne au fond du cimetière vers 16h. Le feu a été mis à cette benne. Les pompiers ont été appelés pour intervenir immédiatement. Pas de dégâts, mis à part un feu en plein milieu de cimetière quand même, mais ça montre que même dans un cimetière, des dégradations sont commises, alors que c'est peut-être le lieu qui doit être le plus respecté autour de nous.
Et la mairie de Nouméa a pris des mesures pour renforcer la sécurité dans et aux abords des cimetières.
La police municipale notamment passe déjà régulièrement aux alentours, mais aussi dans le cimetière. Là, les rondes seront renforcées, notamment la nuit. La journée, on a toujours, nous, des agents de service funéraire qui tournent dans le cimetière. Là, les forces de l'ordre vont renforcer aussi leur présence à l'intérieur du cimetière du 5e et du 4e kilomètre aussi, même si pour le moment, le 4e est assez préservé. Et puis, on a fait le nécessaire pour boucher les trous dans les clôtures qui ont été causés. Alors, en plus, parfois des trous bien propres, coupés avec des cisailles. Et puis, systématiquement, dès qu'on constate que des vases ont été renversés, on prend contact avec la famille de la concession pour qu'elle puisse venir constater et puis déposer plainte si elle le souhaite. Donc on invite à chaque fois les familles à déposer plainte parce que les choses ne peuvent pas rester en l'état.
Un propos recueilli par Nicolas Legrand. Dans un communiqué, la ville de Nouméa condamne non que ces actes révoltants et en appelle au respect dû aux défunts, aux familles et à ce lieu de recueillement qui doit être préservé de tout acte de vandalisme. Fin de citation. Les élus du Congrès ont voté hier la réforme de la TGC. Le texte du 17e gouvernement a été largement modifié pour ne pas augmenter la pression fiscale sur les Calédoniens, Nicolas.
Oui, le texte initial prévoyait d'augmenter le rendement de la TGC de l'ordre de 6,5 milliards de francs par an. Et hier, seules quelques exonérations ont été levées pour améliorer légèrement l'assiette de la taxe générale sur la consommation, sans pour autant trop pénaliser les Calédoniens. Vous le savez, le vote d'une réforme de la TGC conditionnait le versement de la dernière tranche d'aide de l'État d'un montant de 9 milliards de francs. Reste maintenant à savoir si ce texte à minima sera suffisant pour que Bercy débloque les fonds. Et nous avons posé la question ce matin à Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement au Congrès.
Nous verrons bien. En tous les cas, nous avons agi sur la TGC. C'est un fait. C'est ce qui nous est demandé dans la convention, effectivement, que l'État avait rédigée. La convention n'était pas très précise en la matière. Par ailleurs, je crois qu'il faut changer de logiciel. C'est à la Nouvelle-Calédonie de dire à l'État « Ok, nous demandons votre accompagnement. Voilà ce que nous sommes capables de faire. » Et moi, je milite pour que, à la fois, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès s'accorde sur des réformes. Et je vous le disais, il y a une réflexion globale à avoir sur notre système et qu'il soit dimensionné à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Il faut faire ça dans la concertation. Il faut voir quelles pistes peuvent être faites. Il y a eu un travail, et le président du gouvernement nous l'a dit hier, qui a été fait par les directions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais qui n'a jamais été proposé aux élus du Congrès ou en tout cas aux élus du gouvernement. C'est le moment ou jamais de regarder comment nous pouvons économiser et dire à l'État, voilà, nous assainissons, nous sommes plus économes, mais nous ne voulons pas taxer et le tout impôt n'est pas notre doctrine.
Et hier, les élus du Congrès ont d'ailleurs adopté un vœu en ce sens relatif à la mise en place d'un séminaire consacré au redressement des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics. Et pour Virginie Rufnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès, les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sont essentielles pour relancer l'économie notamment. Et pour elle, les réunions qui doivent se tenir à Paris sont cruciales.
Pour nous, c'est une réunion de la dernière chance. Maintenant, vous savez, nous ne sommes pas prêts à un accord à tout prix. À un moment donné, il y a un choix qui a été fait. On se doit de respecter le choix, sinon ce n'était pas la peine d'aller à ces référendums. Nous devons faire notre travail. Mais si nous n'y arrivons pas, parce que les points de vue sont trop divergents, nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quoi. Et à ce moment-là, nous nous prendrons acte et organisons les élections. Mais je crois que ça serait vraiment un aveu d'échec de la classe politique calédonienne que de ne pas parvenir à proposer de nouvelles solutions calédoniennes. Si nous ne dégageons pas l'horizon des Calédoniens, eh bien nous allons devenir un pays totalement sous-développé et totalement dépendant, ce que nous sommes aujourd'hui. C'est Emmanuel Tshibau lui-même qui a dit qu'on ne discutait pas le ventre vide. Là, on est le ventre complètement vide. Alors comment on fait pour le remplir, ce ventre? Eh bien, on se bouge et on fait ce qui est de l'ordre de notre responsabilité, c'est-à-dire on tente de restaurer la confiance en Nouvelle-Calédonie pour dire que ce pays a un avenir.
Virginie Rufnac s'est entretenue au téléphone lundi dernier avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et elle estime que même si la reconstruction de Mayotte occupe beaucoup le gouvernement Bayrou, le dossier calédonien continue de mobiliser l'État.
Manuel Valls me semble très mobilisé sur notre situation calédonienne. On peut reconnaître que cette personnalité qui a été Premier ministre connaît le sujet puisqu'il était en charge de ce sujet lorsqu'il a été Premier ministre. On voit que hier, une aide de l'État qui avait été prévue par le ministre Buffet des Outre-mer précédent a été mise en œuvre, ce qui montre que Manuel Valls est dans une forme de continuité d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie. Et moi, je pense qu'effectivement, il a l'intention de s'y engager. C'est tout le sens de cette invitation, je présume, à Paris fin janvier, pour ne pas laisser au point mort la Nouvelle-Calédonie. En tous les cas, il y a une nécessité que l'État accompagne la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est son devoir moral. Nous sommes des citoyens français de Nouvelle-Calédonie. Nous ne devons pas être traités autrement.
Virginie Rufnac qui rappelle que les discussions entre partisans de la France se poursuivent pour essayer de parler d'une seule voix face à l'État.
Le MEDEF réaffirme de son côté dans un communiqué que le dispositif de chômage partiel spécifique doit être maintenu. Le mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie est auditionné aujourd'hui au Congrès. Ses représentants interviendront lors de l'examen de la proposition de délibération relative au chômage partiel spécifique lié aux exactions de mai 2024. Charlotte Coulson.
L'occasion pour eux de rappeler que son maintien est indispensable. La priorité est pour le MEDEF de pouvoir offrir aux employeurs une visibilité d'au moins 6 mois sur les modalités d'indemnisation de leurs salariés. À terme, c'est le chômage de droit commun qui devrait être réaménagé car les indemnisations qu'ils proposent restent insuffisantes. Si leur niveau et leur durée ne sont pas revus à la hausse, la perte de rémunération pourrait obliger les plus qualifiés à quitter le territoire, selon le MEDEF. Des points que ses représentants porteront devant les élus du Congrès aujourd'hui à 14h.
Et puis les élus du Congrès sont réunis ce matin, mais à huis clos pour une commission plénière. Ils auditionnent en ce moment même encore les représentants du monde de l'agriculture, notamment sur les filières de l'arrêt de certaines aides, sur les risques, pardon, de l'arrêt de certaines aires sur l'ensemble, de certaines aides, pardon, sur l'ensemble des filières. Jean-Christophe Nutou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Vous avez participé ce matin, évidemment, à ces travaux au Congrès. C'était d'ailleurs à la demande du monde agricole que cette commission plénière a été organisée. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que vous avez pu vous expliquer ou en tout cas faire part de vos préoccupations?
Oui, donc on avait fait une demande début décembre. Entre-temps, vous le savez, donc, le 20 décembre, l'agence rurale, lors de son conseil d'administration, a pris la décision de suspendre les mesures de soutien à l'agriculture et à la pêche. Et donc, on a été reçu ce matin. Donc, ce qui est intéressant, c'est une séance plénière, donc avec tous les élus, et non pas que la commission agricole. Donc, on a pu présenter, effectivement, l'ensemble des filières, parce qu'il y a quand même une méconnaissance, globalement, de ce que font les professionnels, et puis d'expliquer en quoi ces filières sont importantes pour l'économie calédonienne, pour la société calédonienne en brousse, etc., et pour l'alimentation des Calédoniens, et en quoi donc le soutien de la puissance publique dans ce cadre-là est important.
Des filières qui, selon vous, selon un travail effectué par la Chambre d'agriculture et de la pêche, pourraient déboucher sur la création d'un certain nombre d'emplois de façon non négligeable.
Oui, donc on l'a expliqué, dans un contexte extrêmement contraint, on a vu quand même que l'emploi, aujourd'hui, l'agriculture et la pêche, c'est 5000 emplois. Donc, qui sont stables, qui n'ont pas trop souffert de la crise de 2024, malgré que ce ne soit pas très simple. Et nous, on imagine que sur la chaîne de valeur de l'alimentation, on peut créer encore 2000 emplois supplémentaires d'ici 2030-2035 par la transformation, par les cantines scolaires, etc. Donc, c'est ce qu'on est venu expliquer ce matin encore aux élus, parce qu'il s'agit d'expliquer, réexpliquer, parce qu'à un moment, il y a des choix stratégiques qui doivent être faits donc par ceux qui sont décideurs et ceux qui affectent les budgets. C'est qu'est-ce qu'on veut pour nos Calédoniens dans une génération. Aujourd'hui, 20% de notre alimentation est produite localement, 80% est importé. Dans les cantines, c'est 12%. Donc il s'agit vraiment d'injecter des fonds publics là où il le faut pour mieux alimenter les Calédoniens. Donc on est allé leur expliquer. On a vu quand même un certain intérêt et une volonté. Puis maintenant, le fait d'aller parler, c'est bien. Il nous faut un calendrier.
Alors, donc voilà, on a demandé un calendrier. Quelle va être la suite, justement, oui.
Le calendrier, aujourd'hui, il est en plusieurs étapes. À court terme, il s'agit de maintenir les 1,7% du budget global de la Nouvelle-Calédonie affecté à l'agriculture et à la pêche, ouais. c'est absolument rien. C'est deux fois moins que l'ensemble des pays pour leur agriculture et leur pêche, donc leur alimentation. C'est le point numéro un à l'instant T. Et ensuite, mise en place de travaux pour avoir une vision à moyen et long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de variable d'ajustement sur nos secteurs, parce qu'on n'est pas là, il ne doit pas y avoir d'enjeux politiques, hein, politique politicienne. Hein, c'est des enjeux qui sont vraiment de politique alimentaire du pays. On est venu leur rappeler. Je crois qu'on a eu une attention. On n'avait pas non plus beaucoup d'élus. On avait moins d'un tiers des élus ce matin. C'est quand même dommage.
Est-ce que vous allez rencontrer le membre du gouvernement en charge de l'agriculture lorsqu'on saura qui c'est, puisque les secteurs doivent être attribués lundi matin?
Oui, on a déjà signifié au niveau de la présidence qu'on souhaiterait rencontrer le nouveau président, donc Alcide Ponga, et son membre du gouvernement en charge de l'agriculture. On n'a pas eu de réponse, mais vous savez, au niveau du gouvernement, on a toujours eu une entente, même si les versements n'ont pas eu lieu. Donc on espère pouvoir les rencontrer dans les 10 prochains jours.
Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, merci d'être venu en direct sur ce plateau.
Merci.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On va commencer par la réponse à la question d'hier. Et seulement 13% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que l'ensemble des formations politiques se rendra à Paris pour participer aux discussions sur l'avenir annoncées par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. 87% pensent qu'elles ne se rendront pas toutes à Paris. Et puis voici notre question du jour. La province sud a-t-elle raison de ne plus prendre en compte les attestations d'hébergement, mais seulement les adresses effectives des parents des élèves de primaire qui font une demande de dérogation scolaire? Si vous pensez que la province sud a raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et prenons maintenant la direction de Dumbéa. Le maire de la commune, Johan Lecourieux, a entamé ce matin une série de visites dans les structures pour personnes âgées, Lionel Sabot.
Oui, chaque début d'année, c'est une tradition. Le maire, accompagné de plusieurs membres de son équipe municipale, rend visite aux seniors, mais aussi évidemment au personnel de ces structures d'accueil, qui sont au nombre de 5 sur la seule commune de Dumbéa. Il s'agit de maintenir et de favoriser un lien de proximité, mais aussi et surtout d'échanger avec les responsables de ces établissements. Écoutez, Johan Lecourieux.
C'est important de venir rencontrer les responsables qui s'occupent des personnes âgées sur la commune, des différents établissements, pour entendre leurs problématiques actuellement, des problématiques de financement par la Nouvelle-Calédonie et d'autres structures aussi, des retards de paiement qui occasionnent donc des grosses problématiques de trésorerie sur ces établissements et donc sur l'accueil des personnes dont ils sont obligés peut-être de réduire à terme le volume d'accueil. Donc c'est vraiment problématique, même si on voit qu'il y a du personnel motivé qui essaie de maintenir un niveau de qualité dans les prestations proposées aux personnes âgées qui sont accueillies, vraiment des fois des personnes âgées très fragiles.
Un moment important pour Johan Lecourieux, un temps d'échange indispensable pour les équipes de l'EHPAD Les Jardins d'Élosis, situé à Coé, qui accueille 74 personnes âgées. Écoutez Thierry Clavillé, c'est le directeur des Jardins d'Élosis.
On n'a pas été brûlé comparé aux autres entreprises, que je pense qu'ils étaient beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles. Par contre, on est quand même un établissement de santé, qui veut dire très compliqué en termes d'embauche, infirmiers, médecins, soignants. Du coup, ça se ressent aussi sur les résidents, sur les familles, et du coup sur l'entreprise.
Comment est-ce que vos résidents ont vécu la période du mois de mai et des semaines suivantes?
Ils l'ont vécu quand même très très mal. C'est sûr qu'ici, comme je disais, on n'a pas été brûlé, pas trop impacté, parce qu'on est en dehors de tout ce chaos qu'on a eu. Par contre, ne pas voir des familles quand ils sont habitués à les voir tous les jours ou tous les deux jours, ça a été très lourd pour eux. Quand tu es âgé à la retraite, tu aimes bien avoir tes enfants qui viennent te voir et les petits-enfants.
Et ce matin, outre les jardins d'Eleusis, Yoann Lecourieux a visité la maison de retraite Gabriella à Auteuil et la pension chez Karine, une toute petite structure qui est située à Nondoué. La semaine prochaine, le maire de Dimbéa visitera avec ses équipes l'EHPAD La Cordiline, Anacutacoin et la pension Le Grand Âge. Cathy Ramona.
11h46, une première pause dans ce journal et dans un instant, on va défiler l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Avec Canal+, vivez les émotions de Noël. Profitez de l'offre exceptionnelle de cette fin d'année. Plus de 85 chaînes, dont toutes les chaînes Canal+, à seulement 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs pendant 2 ans. À vous, le meilleur du sport et le cinéma ultra récent à prix canon. Un petit truc en plus, Mad Max Furiosa, Godzilla by Kong, Vice Versa 2 ou encore Le Comte de Monte Cristo. Tout ça arrive déjà sur Canal+. Alors faites-vous plaisir à seulement 3000 francs par mois. Jusqu'au 31 décembre, pour tout nouvel abonnement de 24 mois à Sélection Plus, moins un coût offert, puis 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant 2 ans. Remise également valable pour un abonnement de 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com. Grande nouvelle, Mitsubishi vous accueille dans son nouveau showroom, toujours à la même adresse, sur le site Sidaps à Ducos. Venez tester nos véhicules, bénéficiez de conseils adaptés à vos besoins et profitez d'un espace conçu pour votre confort. Rendez-vous dès aujourd'hui pour vivre l'expérience Mitsubishi sur le site Sidaps à Ducos.
Boucherie Bobby, nous respectons l'essentiel, la qualité et la nature de nos produits. Des viandes savoureuses, sans conservateur, pour un goût authentique et naturel. Faites le choix d'une boucherie qui met l'excellence au cœur de votre assiette. Boucherie Bobby, la saveur comme elle devrait être.
Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en métropole et le gouvernement Bayrou échappe à la motion de censure déposée par la France Insoumise. Elle a recueilli 131 voix, celle des députés LFI, écologistes et communistes, mais n'a pas reçu le soutien des socialistes. Seuls 6 d'entre eux l'ont voté. Mais que les socialistes l'aient voté ou pas ne change pas grand-chose au résultat, puisque le Rassemblement national avait annoncé qu'il ne censurerait pas le gouvernement et que la motion de censure était quasiment assuré de ne pas recevoir la majorité des votes. Lors de l'examen de la motion, toutefois, le Premier ministre François Bayrou s'en est pris à la stratégie de la France insoumise.
La motion de censure, M. Bompard, que vous avez présentée, elle dit « Nous voulons rester dans l'affrontement. La démocratie, ça n'est pas l'affrontement perpétuel. Vous êtes dans une situation où vous voulez choisir la guerre intestine au sein de notre pays. »
Et cette motion de censure qui a donc été rejetée a tout de même mis en avant une faille, voire une fracture au sein du nouveau Front populaire, puisque le PS s'est désolidarisé des autres partis de l'Alliance de gauche qui est plus que jamais fragilisée. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Olivier Faure prend un énorme risque ce soir. Le patron des socialistes s'émancipe de Jean-Luc Mélenchon et permet à François Bayrou de rester en poste en échange de plusieurs concessions budgétaires et l'assurance d'un vote au Parlement sur les retraites. Cet accord politique, arraché jusqu'à la dernière minute, signe une véritable victoire pour Olivier Faure, qui reste tout de même vigilant.
Nous ne vous accordons pas pour autant notre confiance, mais nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire, parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle nous ne vous censurerons pas, Monsieur le Premier ministre.
Seulement 8 députés socialistes sur 66 ont voté la motion de censure. Le groupe s'est donc globalement rangé derrière Olivier Faure. Au grand désarroi de Jean-Luc Mélenchon, fou de rage devant la décision du parti à la rose. Vous fracturez le nouveau Front populaire, mais les écologistes et les communistes votent la censure avec nous. Vous capitulez donc tout seul, lance le leader insoumis, menaçant à nouveau les socialistes de présenter un candidat contre lors des prochaines législatives. Ça ne nous fait pas peur, répond le député socialiste Philippe Brun.
L'actualité à l'étranger avec l'accord trouvé entre le Hamas et Israël qui devrait entrer en vigueur dimanche, même si les deux camps s'accusent déjà mutuellement de vouloir le torpiller. Cet accord prévoit la mise en place d'un cessez-le-feu de 42 jours au cours desquels le Hamas doit libérer 33 des 98 otages israéliens qu'il détient encore, alors qu'Israël libérera 1000 prisonniers palestiniens. Israël se prépare à accueillir ses otages et a mis pour cela en place un dispositif baptisé les ailes de la liberté. Caroline Baudry.
L'armée israélienne promet que les détails des ailes de la liberté seront dévoilés dans les jours à venir. Le protocole a déjà été mis en place lors du retour des otages en novembre 2023. Centre déployé tout près du point de passage de Kerem Shalom et arrivée des proches en hélicoptère. Côté Gaza, les captifs avaient été remis par le Hamas aux membres de la Croix-Rouge internationale chargés de les faire entrer en Israël. Un hélicoptère les avait emmenés à l'hôpital pour 4 jours d'examen. Cette fois, cela pourrait être bien plus long, estime Sabrina, une proche d'Ofer Calderon, toujours détenue à Gaza.
D'abord, les hôpitaux sont prêts à recevoir les otages. On sait que ça ne sera pas comme la dernière fois où, après quelques jours, la plupart des otages ont été libérés. Là, il s'agit des personnes qui ont été retenues dans des conditions insupportables pendant 15 mois. Dans quel état ils sont, on ne sait pas du tout. On sait qu'à Gaza, il n'y a pas de quoi manger.
Sans parler de leur état psychologique, les Israéliens déjà libérés ont de lourdes séquelles après une captivité faite pour briser les otages.
Et puis toujours à l'étranger, une affaire refait surface et agite la classe politique britannique. Il s'agit de l'affaire des gangs d'immigrés pakistanais accusés d'avoir organisé le viol et l'exploitation de jeunes femmes britanniques dans les années 90 à 2000. Et les enquêtes sont relancées grâce à l'intervention d'Elon Musk. Les explications de Maxime Gondelot.
Il a fallu l'intervention de l'homme le plus riche du monde pour faire bouger les choses. 7 tweets en moins de 24 heures ont suffi pour faire réagir toute la classe politique anglaise. Aujourd'hui, la ministre de l'Intérieur annonce au Parlement une aide de plus de 11 millions d'euros pour aider les enquêtes locales des gangs d'hommes d'origine pakistanaise qui se sont pris à des mineurs, souvent issus de milieux défavorisés. À Rotterdam, par exemple, ce sont près de 1500 mineurs qui ont été drogués, violé et exploité sexuellement par l'un des gangs pendant 16 ans. Des crimes qui n'ont pas été punis par les autorités par peur de créer des tensions communautaires dans le pays ou par calcul électoral. D'ailleurs, l'un des procureurs généraux de l'époque était Keir Starmer, l'actuel Premier ministre anglais. Elon Musk l'accuse d'avoir étouffé l'affaire. Alors là, le ministre de l'Intérieur demande aussi un audit rapide sur 3 mois pour connaître la situation globale dans le pays. Cet audit doit étudier les facteurs culturels et sociétaux dans ces affaires d'exploitation sexuelle d'enfants. Des enquêtes locales qui ne sont pas au goût de tous les parlementaires. Certains demandent une enquête nationale, à l'image du parti d'extrême droite Reform UK, ou comme le député conservateur Chris Phillips, qui a critiqué les enquêtes locales, les jugeant absolument insuffisantes.
En bref, la disparition de David Lynch à l'âge de 78 ans, ce cinéaste américain est le père de la célèbre série Twin Peaks. C'est aussi le réalisateur de films qui ont marqué les années 80. On pense notamment à Elephant Man ou encore Blue Velvet. David Lynch avait reçu également la Palme d'Or à Cannes en 1990 pour son film Sailor et Lula. C'était un artiste complet puisqu'il pratiquait également la photographie, la musique et la peinture. L'actualité dans la région avec un dépouillement en cours au Vanuatu où toutes les urnes ont été centralisées après le vote d'hier pour renouveler les 52 membres du Parlement. Une nouvelle élection alors que le Vanuatu cherche à mettre un terme à l'instabilité institutionnelle récurrente. Jean-Pierre Zajac.
Les personnages politiques les plus en vue ne vont pas attendre les résultats officiels du scrutin d'hier pour forger des alliances susceptibles de leur fournir une majorité forte et stable au sein de la nouvelle Assemblée. Il faut dire que jamais tel n'avait été le cas jusqu'à présent au Vanuatu, où il suffisait d'un rien pour que certains parlementaires ou groupes de parlementaires passent d'un camp dans l'autre, avec pour conséquence majeure la chute d'un gouvernement. Les amendements constitutionnels votés l'an passé et sur le point d'entrer en vigueur devraient y apporter partiellement remède. En effet, s'ils n'interdiront toujours pas aux membres d'un groupe parlementaire de passer d'un camp dans l'autre, à condition qu'ils le fassent tous ensemble, les élus dits indépendants, ou qui sont les seuls membres de leur parti, devront obligatoirement s'affilier à un groupe politique plus important pendant toute la durée de leur mandat. Les législateurs espèrent qu'il en découlera ainsi une plus grande stabilité politique de l'archipel. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h55. Ce journal se conclura dans un instant par toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Un projet de relooking pour votre maison intérieure et extérieure, bateau, automobile, hôtellerie ou restaurant, Tissu Passion vous propose un large choix de tissus d'ameublement ainsi que des tissus techniques adaptés à tous vos projets. Tissu Passion, votre spécialiste tissu au 71 rue Charleroi à Sainte-Marie.
Chez Nissan, l'aventure continue. Notre showroom étant en travaux, nous vous invitons dans le nouveau showroom Mitsubishi sur le site Sidaps à Ducos. Vous y découvrirez nos derniers modèles et nos commerciaux dans un espace moderne et convivial. On vous attend sur le site Sidaps à Ducos et à très bientôt pour l'ouverture officielle de notre nouveau showroom Nissan.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Allez, du tennis pour ouvrir cette page sport avec la suite de l'Open d'Australie à Melbourne. Et trois Français seront sur les cours aujourd'hui, Lionel.
Oui, Benjamin Bonzi affrontera le Tchèque Leka à partir de 16h. Dans la soirée à 18h30, nous suivrons également un choc 100% tricolore. Ce sera entre Hugo Humbert et Arthur Fils. Rappelons qu'hier, Gaël Monfils s'est qualifié pour le troisième tour en s'imposant face à l'Allemand Altmaier. Il rencontrera Taylor Fritz au prochain tour. Qualifié également Corentin Moutet qui retrouvera le jeune Lennard Tien, 19 ans, qui est issu des qualifications. Un match pour une place en huitième de finale. Ce jeune joueur de 19 ans s'est payé le luxe d'éliminer Daniel Medvedev, battu en 5-7 après 4h49 de jeu.
Un mot de football pour parler du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France.
Ouais, et il y aura un seul choc entre clubs de Ligue 1, puisque Strasbourg recevra Angers. Pour le reste, Saint-Brieuc, club de National 2, accueillera à Nice, Ligue 1. Bourgoin-Jallieu, c'est l'un des deux petits poussets de la compétition qui évolue en National 3, recevra à Reims, club de Ligue 1. À suivre également 3 Ligue 2 face à Brest, Ligue 1. Le Mans de National 1 accueillera le Paris Saint-Germain, le leader de la Ligue 1. Toulouse, qui évolue en Ligue 1, accueillera Guingamp, club de Ligue 2. L'autre petit pousset de ces huitièmes de finale, Cabourg, qui évolue en National 3, se déplacera sur la pelouse de Cannes, qui évolue en National 2. Et puis Lille affrontera en huitième de finale le vainqueur de la rencontre entre Haguenau et Dunkerque, qui se déroulera mercredi.
Du handball avec la deuxième journée de la phase de groupe du championnat du monde. La France est imposée sans trembler sur le Koweït, victoire 43-19. Les Bleus sont en tête de leur groupe avec deux succès en deux rencontres, et sont déjà assurés de participer au tour principal. Et puis du côté des sports d'hiver, on va signaler cette victoire française en biathlon.
Oui, Lou Jean Monod a remporté le 15 km de la manche de Coupe du Monde qui se déroule ce week-end au Ruhpolding, c'est en Allemagne. La Française conforte ainsi son dossard rouge de leader de la Coupe du Monde. C'est sa quatrième victoire depuis le début de la saison. Elle a été parfaite, notamment au tir, avec un 20 sur 20. Écoutez sa réaction.
Comme toutes les années, ça se gagne souvent à 20 et c'est ce que j'avais à cœur de faire aujourd'hui, arriver à faire un beau shoot avec un maillot rouge que j'avais jusque-là jamais réussi à appréhender et à gérer. Donc c'est ma fierté du jour d'avoir réussi à gérer cette pression qui est un tout petit peu différente de d'habitude. Et puis oui, le 20, je me suis rappelé mon premier individuel ici où j'avais fait mon premier podium et je me rappelle que j'avais adoré courir, j'avais adoré la piste et je suis resté focus là-dessus.
Lou Jean Monod s'est donc imposé devant l'Allemande Franziska Preuss et la Suissesse Amy Basserga. Notez que Océane Michelon, une autre Française, a terminé au pied du podium, quatrième.
Un mot de sport mécanique. L'année prochaine, ce sera la dernière étape du Dakar au programme 61 km de spécial dans les dunes.
Et en auto, Yazed Aljari au volant de sa Toyota a repris la tête du classement général hier au terme de la 11e étape remportée par la Ford de Mathias Ekström. Il avait 2 minutes de retard au départ et compte désormais 6 minutes 11 d'avance sur l'ancien leader Henke Lategan, lui aussi chez Toyota. Et puis en moto, l'Australien Daniel Sanders possède 9 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant Tosha Charinia, qui a remporté hier à la 11e étape de ce Dakar. Le Français Adrien Van Beveren est toujours 3e à 15 minutes 50 du leader.
Il est midi, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.